Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, re-bienvenue sur Canal Sud dans le magazine. Et voilà, ce soir, on va parler de quoi ? On va parler de la presse, on va parler de la presse locale, on va parler des médias, de la critique des médias même, avec nos trois invités, avec Philippe Gagnebé de Friture Magazine, Xavier Lalu de Carré d'Info, plutôt ex-Carré d'Info, qui nous dira pourquoi on dit ex justement, et Nicolas Mathiussi qui est adhérent de l'association Acrimed. Mais tout de suite, fidèle à notre petite tradition, on passe un petit montage musical parce qu'on aime bien ça, on trouve ça marrant et on espère que ça vous fera plaisir.
Les bergères, j'aime pas les moutons, qu'ils broutent leurs collines, qu'ils broutent le béton, menés par quelques chiens et par quelques bâtons.
Pour les journalistes, il y a deux manières de ne pas remettre en cause le pouvoir qu'exercent les propriétaires des médias. Ils peuvent le nier tout simplement, ou bien affirmer qu'il est normal, voire naturel, que ce pouvoir s'exerce.
C'est pas trop douloureux, docteur.
Non, ça va.
Ne me mettez pas aux arrêts, gardez vos rages pour après, quand je n'aurai plus de succès. Quand je deviendrai journaliste.
Il pleut bergère, prends garde à te garder, prends garde à te garder bergère, un jour tu vas bêler.
Ce soir, après la roue de la fortune, un paf obscène. Un baf obscène est à l'une.
Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route.
Il ne faisait pourtant de tort à personne. Et pourtant, le 30 janvier dernier, la rédaction de Carré d'Info nous annonçait tirer le rideau. Après 2 ans et demi de création, Carré d'Info est contraint de fermer ses portes. La société éditrice du site, B2X Éditions, venait en effet de décider la dissolution anticipée. Pourquoi Carré d'Info ferme ? Pourquoi Friture Magazine a quelques difficultés ? Pourquoi les médias indépendants ont tant de mal à survivre en cette période, c'est pour tout ça qu'on a convié le plateau de ce soir. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et je voudrais commencer à te demander, Xavier, pourquoi Carré d'Info s'est arrêté ?
Bien, bonsoir à tous. Tout simplement parce que manque de fonds, tout simplement. Parce que faire l'activité de journaliste, c'est avant tout un métier, donc une activité rémunérée. Et qu'on soit sur Internet, à la télévision, etc., on parle de coûts de production, de l'info, etc. Sur Internet, certes, ces coûts de production sont moins importants, mais les forces vives d'une rédaction doivent encore être les journalistes, et il faut les payer. Et aujourd'hui, notre modèle économique ne parvenait pas à couvrir les charges, notamment salariales, de notre rédaction. Du coup, on aurait pu continuer à être dans un semi-bénévolat pendant quelques temps encore, mais on n'avait aucune perspective d'amélioration, et on a été contraint de tirer le rideau, comme on a dit.
Du coup, depuis, vous êtes devenu quoi ? Vous étiez, je crois, 4-5
Alors, on était à la fondation de Carré d'Info il y a 2 ans et demi, on était 3. Donc, il y avait Bertrand Jalbal, qui est donc journaliste et qui, aujourd'hui, est sur Lyon et cherche du travail sur Lyon. Il y avait également Xavier Drouot, qui avait plus un rôle de gestionnaire et de commercial, donc chargé de vendre nos annonces publicitaires, qui, lui, donc, a rejoint le SPIL, qui est le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, un syndicat dont on était adhérent et qui a été fondé en 2008 ou 2009 par Mediapart, Arrêt sur Image, rue 89, qui a été obligé de le quitter depuis, on pourra peut-être en parler. Donc voilà pour Xavier. Après, en cours de route, on avait été rejoint par une collaboratrice qui s'appelle Pauline Croquet, qui était associée également dans l'entreprise, et aujourd'hui elle travaille à France Télévisions Édition Numérique à Paris, où elle est spécifiquement chargée de développer des projets pour les déclinaisons locales de France 3.
Donc voilà. Les uns et les autres ont un peu pu trouver quelque chose pour rebondir derrière, quoi.
Pour l'instant, on est à 50-50.
Bon. Voilà. Et toi-même
Eh bien moi, donc, j'étais dans les affres jusqu'au mois de janvier, début février, les affres de la liquidation. Donc c'est beaucoup de paperasse, beaucoup de... D'emmerdement, voilà, pour parler franchement, c'est presque un temps plein. Maintenant j'en vois le bout, et donc ça y est, j'ai commencé à démarrer une prospection qui s'avère délicate, vu que je serais presque heureux de dire que Carré d'Info est le seul média à avoir des difficultés, mais aujourd'hui, qu'on soit à Toulouse ou ailleurs, c'est quand même dramatique ce qui se passe aujourd'hui dans la presse.
On avait une info là qu'on a trouvée ce matin dans l'Huma qui disait que même à Reuters, la rédaction tirait la sonnette d'alarme qui dénonce un suicide programmé par la direction. Donc si même les agences de presse internationales sont dans cet état, c'est qu'il y a un gros problème. Je ne sais pas si autour de la table, il y a quelqu'un qui veut réagir à ce qui vient d'être dit. Nicolas, peut-être qu'est-ce que ça fait un média qui ferme comme ça? Un média comme Carré d'Info?
C'est surtout que les médias actuellement, comme Carré d'Info, sont l'un des rares médias qui permettent le pluralisme. C'est-à-dire que on voit très bien que de plus en plus, on a une concentration des médias autour des grands médias de masse qui, même s'ils ont eux aussi des problèmes de rentabilité, sont loin de mettre la clé sous la porte. On pourra en parler un petit peu plus tard parce que, comme ils ont une fonction d'instrument dans la domination, ils sont loin de, on va dire, de pouvoir être en difficulté parce que les dominants savent très bien qu'ils auront toujours besoin des médias pour continuer à contrôler les gens. En revanche, tout ce qui est de l'ordre du pluralisme, on voit très bien que c'est assez éphémère, il y a beaucoup de fermetures et que là aussi je pense que c'est un élément voulu par le système. C'est-à-dire qu'on fait tout pour qu'il ne puisse pas y avoir véritablement de pluralisme et donc de médias indépendants, associatifs et autres qui puissent prospérer.
Et c'est quoi les mécanismes justement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de médias indépendants? Comment on fait en sorte le système, entre guillemets, concrètement, comment ça se passe?
Donc,
Allez-y. Hein.
Je crois qu'il y a plusieurs leviers. Après, je ne parle pas forcément que pour Carré d'Info, mais je pense qu'il y en a deux. C'est couper l'accès à l'information d'abord, donc dans le travail pur et dur du journaliste. Donc vous demandez une interview, vous ne l'avez jamais. Vous demandez une info, vous ne l'avez jamais. Vous ne voulez pas relayer un communiqué de presse, et ben, vous êtes sanctionné. Donc il y a ce premier aspect dans ce que tu peux appeler la domination, et un peu, moi je préfère parler de rapport de force parce qu'on est contre-pouvoir, donc on essaye de se rendre indispensable tout en, voilà, en étant dans une confrontation qu'on essaye constructive, mais voilà, qui est pas facile. Le deuxième est tout simplement, bon, pour ce qui nous concerne, le levier économique, parce que voilà, quand vous êtes sur un terrain local et que les annonceurs principaux sont notamment des collectivités locales, c'est pas toujours évident de faire son travail sereinement tout en leur demandant d'occuper nos espaces publicitaires via un contrat commercial. Sachant que voilà, parfois, je ne parle pas pour toutes les collectivités, mais parfois des contreparties sont demandées ou sont sous-entendues. Voilà.
Est-ce que c'est la situation que vit aussi Friture Mag, Philippe?
Oui, bien entendu, moi, je suis assez d'accord avec ce qui se dit pour le moment. Sans aller jusqu'aux médias dominants, hein, on voit que l'IB, qui existe depuis 40 ans, est en grosse difficulté. Il y a d'autres médias qui apparaissent, il y a Rue 89 qui est apparu, il y a le modèle de Mediapart qui est très intéressant, qui est apparu. Petits médias aussi alternatifs, si on veut dire, on se place aussi dans un contexte local, voilà. Moi, par expérience, puisque j'ai travaillé dans pas mal de journaux à Toulouse, je sais qu'il est extrêmement difficile, sinon impossible, de monter un canard à Toulouse, parce qu'on a en face un mastodonte qui s'appelle La Dépêche, et qui voit pas d'un très bon œil. On pourra revenir sur des pratiques que moi j'ai connues sur le pluralisme au niveau local.
On va en reposer plus tard dans l'émission, il n'y a pas de souci.
J'espère. Ensuite, au niveau du modèle économique, c'est vrai que nous on est parti sur un modèle un peu différent de Carré d'Info, c'est-à-dire qu'on propose un magazine papier trimestriel et un site payant. Donc nous on est passé sur un système d'abonnement parce qu'on considérait que la gratuité, je pense qu'il faut en parler beaucoup, hein, la gratuité est une chose importante pour les lecteurs, mais c'est totalement invivable pour les structures de presse qui se montent. Nous on pensait que la gratuité est en leurre, et donc on est passé sur un site payant et sur un système d'abonnement à l'année, site plus papier. On reçoit aussi, on essaye de récolter aussi des pubs, et c'est vrai que le contexte local est compliqué. Le contexte actuel de la crise nationale et mondiale est aussi compliqué. Donc les ressources publicitaires pour nous, c'était très important. On ne gagne pas beaucoup d'argent en vendant des journaux. Même Le Monde ne gagne pas d'argent avec ses lecteurs. Les grands journaux gagnent de l'argent avec de la pub. Je pense que c'est une chose très importante. Voilà, donc nous on se bat depuis 3 ans maintenant pour avoir des abonnés. On considère que nos contenus sont assez intéressants et assez décalés sur ce qui se fait dans la région. On se bat aussi pour récolter de la publicité, c'est très difficile. Et je voudrais rajouter aussi que à Friture, on a une politique de payer les gens. Alors, au miracle, mais on paye les journalistes. Il n'y a quasiment pas de bénévolat à Friture. On voulait sortir de cette logique de médias alternatifs avec du bénévolat et des bonnes volontés de tout le monde. On trouve ça très bien peut-être, mais on se retrouve vite dans des impasses. Donc nous, aujourd'hui, on a 450 abonnés, ce qui est pas mal. On approche des 500, mais évidemment, l'équilibre économique est extrêmement fragile. On verra ce qui se passe cet été. Je pense qu'on ne pourra pas tenir très très longtemps de cette façon. Les signes d'audience sont bons et les abonnements sont bons, mais ça ne suffit pas. J'espère qu'on reviendra avec Xavier et Monsieur Dacrimed sur les raisons de cette catastrophe actuelle sur la presse locale et nationale.
Ouais, Nicolas Dacrimed, je précise que tu es là en tant que membre Dacrimed, hein, pas de porte-parole là, ni rien. C'est vraiment, on t'a invité en tant que membre local de Dacrimed. Ouais, c'est marrant que vous insistiez en premier sur cet aspect de la pub et de la difficulté qu'il y a pour avoir de la pub, parce qu'on voit toujours les médias où il y a de la pub, ou justement qui seraient soumis aux problèmes économiques. Et en fait, ce que vous nous dites, c'est que c'est un peu localement, on vous prive de ça, et c'est ça qui vous tue en partie. Qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être aussi dépendant de la pub au niveau local? Je sais pas qui veut répondre.
Bah moi, je peux vous donner les chiffres, hein, c'est très clair. C'est qu'on sort des numéros tous les 3 mois qui sont tirés à 2-3 000 exemplaires, qu'on avait des budgets prévisionnels sur 7 ou 8 000 euros de pub par numéro. On arrive aujourd'hui difficilement à 3-4 000 euros. Voilà quoi. Quand vous comptez les coûts d'impression, la rémunération des journalistes, ça fait pas le compte. Alors il se trouve que nous on a choisi la pub, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples de journaux en France qui marchent sans pub, à part le Canard Enchaîné et les journaux comme Charlie Hebdo ou aujourd'hui Mediapart, mais qui est sur un modèle totalement différent.
Après il y en a quelques autres dans le secteur alternatif, Fakir, ouais, CQFD, enfin qui s'en sortent.
Fakir, CQFD qui est en grosse difficulté, ouais, depuis 10 ans. Je connais pas beaucoup d'exemples de journaux sans pub aujourd'hui. Voilà, il faut savoir que Mediapart, c'est très beau, c'est sur abonnement, c'est du contenu évidemment extrêmement intéressant, mais c'est un budget de départ de 4 millions d'euros, quoi. C'est pas sorti de nulle part.
Ah ouais. Nulle part.
Voilà, il y a beaucoup d'entreprises derrière, de particuliers. Voilà. Bon, donc nous, on avait fait le calcul dès le départ. On ne peut pas vivre sans pub à Toulouse. Enfin, je ne pense pas. On n'y court pas après, hein. On a une petite structure pour démarcher la publicité, on ne se couche pas devant les collectivités, on est souvent dépendant de la mairie qui ne prend pas de pub en ce moment pour cause d'élection, et de la région qui est en train de nous couper les pages pub. Mais bon, de toute façon, on était parti sur ce modèle-là, comme Carré d'Info, hein, qui était parti sur un modèle de pub sur le site. Xavier confirmera qu'il est très difficile ici de démarcher de la publicité, même dans des niches, même dans le petit milieu alternatif qu'on adore, hein, mais qui nous suit pas beaucoup, il faut bien le dire.
Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de sous non plus, hein, après, mais c'est souvent ça le problème.
Clairement, il y a une crise, hein, il y a une crise actuelle, on est encore dans la crise, les publicitaires sont pas fans, et puis surtout, les publicitaires vont vers de l'audience, quoi. Les publicitaires en Midi-Pyrénées vont vers La Dépêche ou vont vers France 3, ils s'intéressent pas beaucoup à nous, malheureusement.
Nicolas, est-ce que tu veux réagir là-dessus sur l'omniprésence de la pub, même dans des médias indépendants? Enfin, ouais. L'omniprésence, l'importance de la pub plutôt.
Parce que c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion au sein de beaucoup de milieux, on va dire, alternatifs sur ce qu'est la publicité. Mais il y a aussi une réalité concrète qui fait que, hélas, pour beaucoup de journaux ou de secteurs publics, tant qu'il y aura toujours un sous-financement, pour en parler un petit peu, public, couper et se dire qu'on peut s'affranchir de la pub, ben, ça veut dire forcément que tu vas rogner quelque part, tu vas rogner sur le bénéfice. bénévolat, parce que dans certains des magazines dont tu as parlé, Fakir ou CQFD, j'aimerais savoir si tout le monde est payé à hauteur de ce qu'il peut fournir comme travail.
Payé tout court, je n'en sais rien. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de bénévolat, c'est souvent. C'est d'ailleurs souvent le moteur, mais y compris ici à Canal Sud, hein, où on est quelques salariés, mais beaucoup, beaucoup de programmes sont faits par des producteurs bénévoles.
Oui, mais ce qui veut dire que si à un moment on veut trouver une source de financement, on est hélas obligé de se tourner vers ceux qui veulent bien donner de l'argent, et actuellement c'est les publicitaires. Moi, d'un point de vue de la structure, là je parle en mon nom propre, j'ai toujours vu que l'un des gros problèmes, c'est qu'il y a l'accès, on va dire, l'accès à la visibilité d'un média alternatif ou autre qui puisse rencontrer un certain nombre des personnes potentiellement intéressées par la lecture on va dire, d'un journal écrit ou d'un site web. Et on voit très bien que ces accès doivent, en gros, on doit fracturer une porte pour pouvoir rentrer. Il n'y a absolument aucune aide qui est faite de la part des pouvoirs publics pour permettre cet accès et cette visibilité-là. Si l'on prend ce qui se passe en Amérique latine, on voit que les secteurs audiovisuels ont été faits en trois tiers. Un tiers pour le privé, un tiers pour le public et un tiers pour l'associatif et communautaire. Enfin, ça a un sens pour eux là-bas, la communauté. Et avec une formation de journaliste, tout ça, c'est-à-dire que les fréquences, par exemple, les audiences sont données et non pas comme on le voit en France avec la TNT où les grands groupes qui étaient déjà présents ont eu majoritairement les fréquences. Si c'est parler de la presse écrite, on voit qu'il y a 1,8 milliard d'euros qui sont donnés à la presse écrite, et on voit que les principaux bénéficiaires sont là aussi, encore une fois, les gros, ceux qui sont ce que j'appelais les médias dominants. On voit très bien que là encore, c'est toujours ceux qui ont déjà une surface, on va dire, médiatique importante qui sont favorisés. Donc, déjà de permettre de mettre tout le monde le plus possible vers, pas une égalité, mais du moins une visibilité. Le deuxième élément, qui pour moi est là aussi, là, par contre je parlerai encore une fois de manière personnelle, on voit que la pub, c'est un pouvoir, c'est surtout le pouvoir de décider ce qui est dit dans le journal. C'est-à-dire que lorsque vous prenez Renault, on peut le voir aussi à un endroit plus bas, c'est Renault donne son budget pub à condition que ce que dit le journal n'aille pas contre les intérêts, ou du moins contre ce que Renault ne voudrait pas qu'on dise sur lui. Donc on s'arroge non pas seulement par l'argent un pouvoir de viabilité, mais aussi un pouvoir de contrôle. Et là, on voit aussi par exemple ce que vous disiez sur les collectivités territoriales. Là, je pense qu'un mauvais papier, un papier honnête sur certaines...
Donc un bon papier en fait.
Donc un bon papier en fait sur certaines pratiques d'une collectivité ou d'un élu, et vous prenez un coup de ciseau dans le budget. Donc, et là, la seule manière que je vois de pouvoir, on va dire, contrebalancer ça, tout en gardant la pub, c'est que ce ne soit pas les gens qui demandent qu'il y ait une communication, on va dire, au sein des collectivités territoriales, ou bien une publicité au sein des groupes privés, qui soient décideurs d'où elle va. C'est-à-dire que si tout l'ensemble des budgets pubs étaient rassemblés et ensuite ventilés selon l'ensemble des personnes, des supports intéressés, ça permettrait de continuer à faire des papiers sur des collectivités territoriale ou sur des groupes privés, tout en touchant toujours l'argent de leur publicité.
Philippe, je te voyais être un peu hésitant sur le début de l'explication, Nicolas. Le contrôle de la pub sur les contenus...
Non, mais c'est... Enfin, c'est pas aussi, je pense, manichéen que ça, quoi. Effectivement, nous, l'exemple le plus récent, c'est que la région vient de nous couper les pages pub. On ne sait pas du tout pourquoi. On a fait un papier le mois dernier sur les liens entre la formation, le budget formation à la région, et sur Airbus, qui je pense a pas plu du tout, mais qui était un très bon papier. Et on se retrouve deux mois après sans pub de la région. Donc il y a ça, mais nous on l'avait intégré dès le départ, on s'était dit, s'ils ne veulent pas nous suivre, c'est pas grave. Voilà, puisqu'on connaît très bien cette situation. Ensuite, il y a une question qui est très présente chez les journalistes, dans des petites structures, c'est l'autocensure, quoi. Et ça, c'est important et on n'en parle pas souvent. C'est qu'un bon journaliste qui fait son papier ne doit pas avoir la tête à la publicité, c'est clair. Je pense pas que les journalistes de La Dépêche, quand ils parlent de Monsieur Malvy dans La Dépêche, ne pensent pas aux pubs de la région, quoi. Voilà, il y a des liens étroits. Nous, on a essayé de fonctionner sans penser à la publicité. C'est très séparé aussi dans la rédaction. C'est une chose importante, quoi, que la rédaction soit séparée de la publicité.
Vas-y.
Je sais pas, Xavier, si tu veux. Et puis voilà. Et puis je conclue rapidement sur la pub et sur les aides à la presse. Je sais pas si on peut citer les montants de ce que a touché la Dépêche l'an dernier en aide publique.
Si c'est public, on peut. Hein.
Oh, bien sûr que c'est public. Heureusement.
Mais il y a la Cour des comptes qui en a
parlé. 8 millions d'euros de
voilà.
De mémoire.
Voilà. Et nous, aujourd'hui, petits médias, on a droit à zéro. C'est tout simple, quoi. Donc vous
presque zéro.
Pratiquement zéro. Donc je sais que le SPIL se bat pour ça, qu'il y a des syndicats qui se battent pour ça, qui ont obtenu la baisse de la TVA, notamment sur la presse en ligne.
Le SPIL, précisé pour les auditeurs, donc c'est le syndicat qui regroupe les
pure players, disons les rédactions, les journaux indépendants qui sont montés au départ sur Internet.
Sur Internet, d'accord. Voilà.
Et qui sont affranchis des grands groupes de presse traditionnels.
Voilà. Ok. On marque une petite pause musicale et on reprend juste après, justement, on parlait de la Dépêche, je pense que c'est bien de consacrer un moment au système La Dépêche du Midi. De retour sur Canal Sud 92.2, canalsud.net, on est dans le magazine et on parle de la presse indépendante locale et de ses moyens de survie. Et si on parle de presse locale, on parle nécessairement ici à Toulouse de l'Empire, le mastodonte, le géant. J'ai nommé le groupe La Dépêche. La Dépêche, qu'est-ce que c'est La Dépêche ? Savez-vous que La Dépêche, c'est un journal dont la devise c'est renseigner vite et bien. Oui, carrément. La Dépêche, c'est ce groupe qui possède la Dépêche du Midi, le Midi Olympique, la Nouvelle République des Pyrénées, le Petit Bleu du Lot-et-Garonne, le Villefranchois, qui possède les magazines La Dépêche Mag, Feu, on va en parler, Toulouse Mag, MPS, qui est participant de la Sarle, publie les journaux de petites annonces, des gratuits 20 minutes Toulouse, en partenariat avec le groupe qui édite 20 minutes, de Direct Matin, qui participe à Gazette de Montpellier, Gazette de Nîmes, qui édite La Dépêche TV, qui a 22% du capital de TLT, qui fait un chiffre d'affaires de 115 millions d'euros pour 800 salariés et qui est possédé à 67,5% par l'Occitane de Communication, le groupe de monsieur Jean-Michel Baillet, et par 15% par le groupe Quillet SA du groupe Lagardère, et enfin 6% par Pierre Fabre, et même 3% par les caisses d'épargne de Midi-Pyrénées via Tofinso. La dépêche, et je crois qu'il y a pas mal de choses à dire parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, comme disait Philippe, il n'y a pas de médias indépendants qui arrivent vraiment à surgir à Toulouse en dehors de La Dépêche. Qui veut se lancer sur le sujet? Il y a de quoi dire.
Bon, ben moi je rajouterai que c'est juste le dernier exemple de fonctionnement stalinien dans la presse, quoi. Je vois pas d'autres exemples. On connaît en face le Figaro avec Dassault. Ce qui me gêne pas, moi, le plus dans l'empire de La Dépêche, c'est ses contenus, ses financements croisés, tout ça. Ce qui est vraiment le plus gênant, c'est que c'est dirigé par une personnalité politique, quoi. Mmh. Quelqu'un qui a été ministre, qui est président de conseil général, qui est sénateur, qui est maire d'une ville et qui possède un journal. Je pense qu'avec le Figaro, c'est unique en France. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait face à ça? On peut constater les dégâts depuis 20 ans sur Toulouse. C'est simple, il n'y a pas un seul journal qui tient face à l'Empire, à part La Voix du Midi peut-être, qui tient le coup. J'en vois pas d'autres. Pour avoir participé à l'aventure Tout Toulouse qui avait été montée par Le Monde, je peux vous dire que les pratiques de La Dépêche sont extrêmes, j'irai pas plus loin. C'est un territoire gardé, c'est une chasse gardée, c'est quasiment impossible de monter un autre journal ici.
Il y avait eu Satiricon quand même à un moment, qui avait tenu tant bien que mal.
Oui, mais c'était...
Oui, Satiricon était un journal satirique, un petit canard enchaîné local, mais les journalistes étaient obligés de bosser sous pseudo. Je suis bien placé aussi pour le savoir. Et surtout, les journalistes n'étaient pas payés à Satiricon. Voilà. Donc moi, je suis très gêné tout le temps par des journaux. On parlait tout à l'heure de Fakir. Ça me dérange beaucoup que les gens ne soient pas payés. Je veux bien qu'on défende des causes. C'est un temps. Faut bien croûter, faut bien que les gens vivent. Les journaux comme Satiricon ou Fakir passent leur temps à dénoncer des pratiques de droite, défendre l'emploi, etc. Mais ne payent pas leurs journalistes, quoi. Donc moi je suis un peu réticent sur cet exemple-là, quoi. Voilà, après pour revenir à La Dépêche, nous pour parler de friture, hein, on cherche vraiment une toute petite place, on risque pas de faire tomber l'Empire La Dépêche.
On n'y est pas, effectivement.
Dès qu'on sort une oreille, on se fait quand même dégommer, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça, je pense que Nicolas avait raison, qu'il faut vraiment trouver un nouveau système, quoi, d'aide à la presse, avec un fonds, pourquoi pas, ou une nouvelle politique d'État. Sinon, on ne sortira jamais de cette situation et La Dépêche peut dormir sur ses deux oreilles bien tranquille.
Tu veux réagir, Xavier? Vous avez senti aussi l'Empire La Dépêche à Carré d'Info?
Oui, parce que d'une part, dans l'accès à l'information, après, il y a des. Encore une fois, sur l'accès à l'information, c'est assez frustrant en fait, puisque vous faites des conférences de presse. Bon, on n'était pas très friands des conférences de presse, mais il y en a qui sont incontournables pour poser certaines questions sur des moments forts d'actualité. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait toujours une place de réservée et. Quand le journaliste de La Dépêche était en retard, on commençait pas, quoi. Et on attendait qu'il pose la première question. Enfin, je sais pas, il y a une ambiance aussi, quoi, qui est... je l'en veux même pas, parce que c'est comme ça, c'est pas lui, c'est pas le journaliste en question, parce qu'en plus, il y a des bons journalistes à La Dépêche du Midi. Certains sont très bons.
On a parfois, effectivement, cité certains journalistes, certains articles de La Dépêche qui étaient bien écrits. On peut vous dire que, effectivement, parfois, ça arrive.
C'est pas... Oui, non, mais bien sûr. C'est pas une question, en plus, du personnel journalistique.
Oui, bien sûr.
Mais voilà, ce qui est le plus frustrant, c'est qu'en plus, nous, on s'était positionné sur un secteur que non plus, qui est un secteur plutôt urbain, un peu jeune, donc... alors connecté, parce qu'on était sur Internet, donc... c'est un lectorat qui, on le sait, et c'est pas leur faire injure, qui ne lit plus la Dépêche du Midi, voilà, même sur internet, je dirais, qui a une mauvaise image de ce journal, et c'est dommage quand même, puisque c'est quand même c'est le seul journal, c'est le journal dominant dans la région, donc c'est dommage que les gens n'ont plus confiance dans le journal de la région.
Enfin, ça a peut-être et des raisons aussi.
Il y a des raisons, mais il y a des raisons, je suis d'accord. Mais du coup, enfin voilà, on a réussi à trouver une place, une petite place à côté, on s'est jamais positionné comme concurrent, on n'a jamais voulu faire en sorte de faire tomber cet empire. J'ai jamais voulu être sénateur non plus. Et voilà. Et malgré tout, voilà, on a eu quelques ennuis. Voilà. Sans m'épancher plus, mais voilà. Ce qui est quand même incroyable vu la taille de notre structure. Voilà.
Et tu peux pas en dire plus?
Non, mais des rumeurs, enfin, ou des gens qui disaient bon, on travaille pas avec vous parce qu'on travaille qu'avec la Dépêche. Bon.
Ah, d'accord, enfin,
okay. Des agences de com ou des responsables d'achat publicitaire.
Voilà. Oui, et puis moi je peux vous dire clairement que. Alors nous on n'est pas du tout comme Carré d'Info, on n'était pas basé uniquement sur Toulouse. Je peux vous dire que Bernard Maffre, le directeur général de la Dépêche, voulait dégommer Carré d'Info depuis longtemps.
Ah, c'est intéressant.
Scoop sur Canal Sud.
Non, mais c'est simple, là, ils essaient de tout dégommer. Voilà, il n'y a pas à chercher plus
ce
loin.
Ce qui est dingue, je me permets de réagir, mais ce qui est dingue, c'est que Bernard Maffre, donc si je me trompe pas, qui est le numéro 2 de ce groupe, voilà, prennent la peine quand même de se dire je vais dégommer Carré d'Info.
Oui,
enfin, on a 2 ans, on a tous moins de 30 ans, on voulait construire quelque chose pierre par pierre sans faire de grands effets d'annonce, on n'avait pas le monde derrière nous, on était parti avec nos économies. Grâce à nos contenus, on a réussi à se faire une petite place dans le paysage médiatique, à demander des budgets publicitaires comme n'importe quel autre journal, et ça c'est jeu. Non mais je suis effaré de cette perte de temps en fait, du direct du numéro 2.
Mais
c'est parce qu'ils ont peur de tout et qu'ils veulent sauvegarder leur territoire à tout prix.
Mais ça me rappelle vraiment un peu les mécaniques des médias dominants, cette fois au niveau plus global, où en gros, dès qu'on émet une petite critique sur un aspect ou quelque chose, etc., c'est immédiatement attaqué l'ensemble des trucs, et il y a un effet de groupe généralement, quand on a vu ça avec le Figaro, on a vu ça avec Le Monde, où des fois effectivement on touche la structure et puis d'un coup slack, c'est le couperet qui tombe. Et ça, comme tu dis bien, c'est pas les journalistes, c'est un effet de structure, quoi. Et là on revient à ce que tu disais, je crois, Nico, un peu.
On voit très bien que, d'après vos exemples, que il y aurait la place, on va dire, il y aurait une place. Donc la vraie question, c'est s'ils sont à ce point aussi hargneux et qu'ils veulent à ce point bouffer tout le monde, c'est que on voit très bien que derrière le journalisme, il y a à mon avis deux éléments. Le premier, c'est que c'est une entreprise. C'est une entreprise qui est rentable, qui est aussi aux mains d'une famille, parce que la famille Bailey, faut voir la mère et le fils.
Oui, le fils est directeur général et de la publication, Jean-Nicolas Bailey, et le président directeur général du groupe La Dépêche, c'est Jean-Michel Bailey, son père. Donc voilà, ça pose le cadre.
Le petit arrive.
Oui, le petit arrive pour prendre la suite. On voit très bien aussi les liens qu'il y a eu avec Pierre Fabre dans La Dépêche ou dans ces liens-là, parce que je pense que tu as raison de dire que c'était à la fois une entreprise politique avec Jean-Michel Bailey, mais les laboratoires Fabre aussi ont beaucoup usé de La Dépêche, donc il fallait garder ce monopole économique. Et deux, on voit aussi que, et ça c'est aussi la stratégie des médias dominants, c'est ce que j'appelle l'occupation de l'espace. Il faut qu'on soit tous à dire la même chose, comme ça on occupe l'ensemble de l'espace. Même si vous avez l'impression que c'est redondant, qu'on pourrait se dire, mais pourquoi pas avoir une petite place pour certains qui diraient quelque chose de différent ? Non, c'est parce que c'est pour moi ce que je disais tout à l'heure, c'est une idée de contrôle. Parce que je sais que sur Carré d'Info, il y a quelque chose que vous savez bien, que vous essayez avec vos moyens, c'était de suivre une information. On voit très bien que dans les médias actuels, une information est quelque chose de très volage. C'est-à-dire que tout le monde parle des mêmes informations au même moment, et ensuite elles sont reléguées dans l'oubli, et on va en prendre une autre, et ainsi de suite. D'avoir cette idée qu'on peut avoir une information à un moment qui ensuite va mûrir selon les protagonistes, et ensuite, à la fin, avoir une conclusion totalement contraire à celle qu'elle avait au début, structure une pensée.
permet aux gens de voir qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qui est dit dans un premier temps, qu'on peut aller plus loin, qu'on peut dépasser toutes ces constructions médiatiques. Or, rien que faire ce que vous faisiez, c'était déjà, peut-être pour la Dépêche, quelque chose dans lequel ils se sentaient en danger, parce qu'on allait voir en effet que entre ce qui était dit au début et les effets que la médiatisation a eu, et ce qu'on pouvait en dire, ben vous pouviez peut-être grossir, et là encore une fois, permettre aux gens de penser, ou bien leur prendre un peu bibistec.
Philippe ?
Oui, alors moi, sur ce point-là, j'ai un exemple très concret, c'est l'histoire des studios, des pseudo-studios d'Hollywood à Francazal, qui était une escroquerie depuis le départ, hein. Nous, on en a parlé, mais qui ont été soutenus d'une façon totalement hallucinante par la Dépêche, qui s'est comportée en agence de communication. On peut sortir les articles, on les a gardés, sans aucune distance, sans aucune enquête, qui a défendu le projet depuis le début, qui continue à le supporter parce que M. Granja, qui est un escroc, est maintenant en Ariège et bientôt dans l'Aude. Il serait passionnant de ressortir toutes les archives de la Dépêche sur cette question-là. Et là, on se rend très bien compte des liens économiques et politiques entre le journalisme, ou le soi-disant journalisme, et des projets économiques. C'est-à-dire que la Dépêche ne s'est pas comportée en journal d'enquête ou de relater des faits. La Dépêche s'est comportée comme une agence de communication qui soutenait un projet économique qui aurait pu développer Toulouse. C'est extrêmement grave. Cela dit, je pense que les lecteurs ne sont pas dupes, au bout d'un moment. Je pense que si Carré d'Info avait pas mal d'audience, ce que je sais, et que nous, on en a un peu... voilà, faisons confiance au lecteur, c'est important. Après, essayons de régler ces problèmes économiques, c'est là qu'est le nerf de la guerre.
Je suis totalement d'accord sur l'intelligence des lecteurs. Là, je parlais de la stratégie des personnes qui étaient là. C'est justement parce que les lecteurs sont beaucoup plus intelligents que ce que beaucoup dans ces médias, dans ces empires, ne veulent le faire croire, qu'il faut occuper l'espace. Parce que si jamais on permettait justement de donner ne serait-ce qu'une voix discordante petite, elle va pouvoir grossir. Pour prendre quelque chose de politique est totalement lointain, mais quand on voit pour le TCE en 2005...
Le traité constitutionnel européen.
On voit très bien qu'on avait l'ensemble des médias dominants qui poussaient à la roue pour le oui, et qu'il a suffi, là ça a été un média différent qui était Internet, et qui a permis d'avoir une voix discordante, d'avoir des gens qui se sont saisis de cette occasion, beaucoup plus que ne le pensaient les médias dominants. Donc là, sur Internet, l'espace n'était pas occupé et on a pu voir ce que ça donnait.
Et paradoxalement, pardon, mais aujourd'hui, Internet, justement, l'espace est maintenant occupé par les mêmes qui étaient avant. Et ça nous tue.
Tout à fait. Ah. En plus, il faut être très vigilant parce que c'est un espace qui va être de plus en plus occupé. Aujourd'hui, on a encore la chance de pouvoir créer son média ou son entreprise de presse. Mais la question de la neutralité du net qui est fondamentale et qui est aujourd'hui remise en cause... par différents projets de loi, que ce soit sécuritaire, militaire ou par le Parlement européen. Et c'est vrai que avant Internet, c'est l'observation que j'en avais, c'est quelque chose de bouillonnant où il y avait une arborescence très très fouillie et on pouvait se perdre dedans. Et aujourd'hui, on assiste en fait à une concentration également des canaux de diffusion. Et aujourd'hui, sur Internet, on passe la majeure partie de son temps sur Facebook, sur Twitter, sur lemonde.fr ou sur des agrégateurs qui donnent de moins en moins de place à des médias qui sont différents.
Je voulais justement profiter de l'occasion pour que tu parles du cas de Rue 89. Tu l'as évoqué au début. Tu peux nous dire en quelques mots ce qui s'est passé, en fait.
Alors, Rue 89, c'est un pure player qui s'est créé en 2007, le lendemain de l'élection de Nicolas Sarkozy, par des anciens de Libé qui voulaient, eux, prendre le virage du numérique. Puisque aujourd'hui la question se pose pour l'IB, avec leurs économies, mais ils avaient beaucoup plus de moyens que nous parce qu'ils n'avaient pas le même réseau. Ils sont très rapidement arrivés à quelque chose de significatif en termes d'audience. Néanmoins, ils continuent de perdre de l'argent, beaucoup, beaucoup d'argent tous les ans. Je crois que c'était de l'ordre de 200 000 euros par an ou 250 000 euros. Ça a failli fermer 4 fois et c'est vrai que malgré cette installation rapide et réussie dans le paysage médiatique, et une ligne éditoriale qui était quand même nouvelle et qui était vraiment intéressante, vous n'avez pas le choix, quoi. C'est-à-dire que quand on leur a... C'était soit... Enfin, en gros, hein, moi, comme je l'analyse, c'était soit ça, soit ils fermaient, quoi.
Et ils ont été mangés depuis par le Nouvel Observateur.
Depuis, ils ont été rachetés par le Nouvel Observateur. Très bien rachetés. Donc les fondateurs sont contents. Mais le Nouvel Obs regrette maintenant cet achat.
Qui lui-même est à vendre.
Donc Rue 89 pourrait se retrouver vendu 2 fois en 3 ans.
au fameux trio BNP, voilà, Berger, Pigasse et Niel. Voilà.
Et comme je te disais, il y a...
Et il y a un mouvement de concentration. Et en fait, voilà, j'en discute avec pas mal d'acteurs, on a l'impression d'assister à une... Est-ce que vous viviez les radios associatives ou les radios libres dans les années 80?
Ah, c'est intéressant, ça.
Beaucoup de... Il y a eu une effervescence incroyable à cette époque pour la radio. Et qu'est-ce qu'on en retire aujourd'hui? Beaucoup ont disparu. Et voilà, énergie. Et les autres ont été mangés petit à petit et avalés par des grands groupes.
Sauf Canal Sud qui est toujours là.
Voilà, non, mais
Nicolas, sur la concentration?
Mais si tu... On voit bien que... Enfin, ça, c'est un élément capitalistique de la concentration des acteurs d'un secteur, mais là aussi c'est les structures qui sont importantes. Le fait de pouvoir interdire à différents groupes de posséder plusieurs journaux ou plusieurs supports, le fait, ça c'est une revendication d'Acrimed. L'autre revendication d'Acrimed, c'est que tout ce qui est entreprise de presse soit une entreprise à but non lucratif, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas payer les personnes, non, mais que la presse n'est pas là pour être un support pour faire de l'argent, parce
qu'en l'état c'est déjà le cas, c'est pas lucratif.
Oui, enfin, pour quand on veut de l'alternative, mais tu prends par exemple un journal, on parlait des journaux gratuits qui sont à mon avis qui étaient interdits jusque, c'était une pratique qui était assez courante dans des pays du Nord ou anglo-saxons, qui était interdite en France et qui était à mon avis une bonne chose parce que, comme tu le disais toi-même, l'information, c'est qu'il y a des personnes qui sont derrière, il y a un travail qui mérite d'être payé. Et donc, le fait d'être gratuit a donné déjà le sentiment à beaucoup de personnes que l'information, c'est quelque chose de gratuit comme l'air, alors que c'est absolument pas le cas. Mais ces journaux, ils sont gratuits. Mais s'ils étaient déficitaires, si on faisait pas de l'argent avec, ils auraient disparu depuis longtemps.
Bah, d'ailleurs, on va en voir disparaître dans pas très longtemps, je pense. En tout cas, des bouches de métro, parce qu'ils n'arrivent plus à vendre les gratuits sur de la publicité sur le papier. Et beaucoup sont en train de se redéployer vers le numérique et vont se transformer bientôt en gros sites web. Je pense qu'il y a des éditions papier qui vont disparaître. Puis regardez ce qui se passe à 20 minutes.
Ouais, même avant ça, c'est ça. 20 minutes, avant c'était 36 pages, maintenant ça s'est tout réduit. Il y a deux pages de pub supplémentaires, mais bon, c'est les mêmes que dans les autres. Donc on voit bien qu'ils sont sur le même marché, donc forcément. Plus ça réduit, plus ça concentre, quoi.
Mais pour revenir sur le sujet justement des fonds, des capitaux et de séparer les choses, il y a un grand mot qu'on nous sort et que nous on nous a sorti d'ailleurs pour des gens qui étaient intéressés par notre marque, parce qu'on a eu quelques propositions, c'était la diversification. Donc il fallait se diversifier, donc faire de la com, faire de l'événementiel, mettre en valeur, ça permettait aussi d'avoir des contrats publicitaires, mettre en valeur les élus locaux via des forums, je vous refais pas, l'IB était là il y a pas longtemps d'ailleurs, via des forums, pour beaucoup d'argent, via des contenus, c'est-à-dire on produit des contenus pour d'autres sites, parce qu'on sait bien écrire et puis on sait problématiser un truc, donc on peut le faire pour le journalisme, on peut aussi le faire pour une marque. Donc voilà, faites de la formation, sauf que nous on est journalistes. Et aujourd'hui je crois que, regardez ce qui se passe, et pour revenir au sujet de la Dépêche, aujourd'hui qui prend les restructurations à la Dépêche du Midi, ce sont tous les secteurs qui sont liés au journalisme. Et le reste gagne de l'argent, il fonctionne. Mais là où on perd de l'argent, c'est la presse, donc qu'est-ce qu'on fait? On réduit les coûts générés par ça. Je pense que tant qu'on aura différentes activités aussi diverses, regardez l'équipe, ils font du coaching sportif, l'IB, ils vendaient des produits du terroir. Tant qu'on aura des activités diversifiées, dans des groupes qui sont à la base des journaux, on aura des gros problèmes. Les journalistes ne seront plus aux commandes de leur journal.
Pour mettre ça en lien avec les autres émissions qu'on a faites, on a beaucoup reçu de salariés en lutte, de syndicalistes et tout. On voit qu'en fait, c'est la même mécanique, puisque dans l'industrie, c'est le groupe industriel, mettons SNCF, qui fait plein d'activités, qui a 200-300 filiales, dans laquelle il y a une filiale historique de transport de voyageurs par train, qui devient marginale, qui est déficitaire, et qui on demande la rentabilité extraordinaire. Et en fait, la presse subit le même mécanisme que les autres, j'ai l'impression.
Bah, l'IB est une marque qu'on doit exploiter pour faire un flore. Voilà.
Oui, ça résume tout cette idée. Philippe, la diversification, c'est quelque chose, mine de rien, que vous essayez de faire à Friture. C'est pas une voie de...
Non, mais nous,
sans issue.
Il y a diversification. Nous, on fait de la formation, on s'en cache pas. On fait de la création de chartes graphiques, on fait des sites internet et on monte des expos, tout ça. On fera jamais de publi-reportage ou on sera jamais une agence de com. C'est très clair, quoi. Nous, on essaie de se diversifier parce qu'on n'a pas assez de recettes, tout simplement, de vente, quoi. Voilà, donc la diversification, c'est pas... un mot tabou. On n'en est pas à Libé qui se fait payer des forums récemment à l'Arsenal par la mairie. Hein. C'est 200 ou 300 000 euros chaque fois. On va avoir dans 15 jours Futurapolis à la Halograin qui est organisé par Le Point, qui est payé entièrement par la région, quoi. Voilà, donc alors nous.
En plus des subventions nationales qui sont exorbitantes, c'est une forme de subvention indirecte.
Mais c'est exactement la direction que prend l'IB, ce qu'a proposé la nouvelle direction de l'IB, c'est-à-dire faire un café, des forums, des marques, etc. Bon, voilà, alors nous, à Friture, on n'en est pas là. cela dit, juste deux choses rapidos. Je suis tout à fait d'accord avec la proposition d'Acrimed qui se base sur ça depuis longtemps, qui a été relayée par le Spiel et par Mediapart, sur l'interdiction aux industriels d'acheter des journaux, quoi. Tous les journaux en France sont tenus par des industriels et parfois par des industriels de l'armement. Figaro est tenu par M. Dassault qui vend des rafales et des missiles. Il y a quand même un gros souci. Donc ça, c'est un premier point très important. Moi, je soutiens tout à fait Acrimed dans ce combat depuis longtemps et j'espère qu'un jour, ça arrivera. Deuxième chose, c'est que nous, à Friture, on essaye de monter un modèle justement un peu différent, c'est-à-dire qu'on a le projet de se transformer en société coopérative et d'intégrer par ce biais-là des collectivités ou des entreprises, hein, ou des personnes individuelles ou morales, mais le système de la SCOP, de la Société Coopérative Ouvrière de Production, permettrait qu'il n'y ait pas la mainmise d'un industriel, justement, d'une collectivité, puisque dans une SCOP, c'est une personne, une voix. Voilà. Donc nous, on propose...
Personne morale aussi, une voix, quoi.
Voilà. C'est... Qu'on mette 100 000 euros ou 5 euros dans une SCOP, on a une voix à nager. Alors, le souci, c'est qu'on n'arrive pas non plus à faire ça. C'est-à-dire qu'on a démarché, nous, les collectivités, et ça fait 3 ans qu'on les démarche. La région, la mairie, le conseil général, même les ministères, enfin, etc. Mais évidemment, elles ne veulent pas, quoi. Parce que pour eux, c'est piégeux. Ils n'ont pas l'habitude de fonctionner comme ça. Ils fonctionnent depuis toujours sur des liens de proximité et sur de la pub politique. C'est dommage. Alors, on n'y arrive pas. On a récolté aujourd'hui... 80 sociétaires, notamment des personnes. On n'arrive pas à y intégrer des gens qui ont un peu plus de moyens, parce qu'on y revient, il faut toujours des moyens. Et ça leur paraît tellement bizarre qu'ils n'acceptent pas. Je pense qu'ils n'accepteront pas. Hein. Ils nous font marner depuis 2-3 ans. Voilà, on a essayé de contourner un peu tous ces modèles. C'est aussi difficile. Alors, il faudra bien légiférer un jour. Hein. De toute façon, c'est ce qui se passe. Il faudra une loi.
Je vous propose de marquer une deuxième pause parce que ça fait plus une demi-heure qu'on cause et pour laisser respirer. Et justement après, Nicolas, je te passerai la parole pour qu'on cause justement de comment on va sortir de ce système.
Time. Chaque jour faut plat une claque. S'ils ont rien d'important sous la dent, une goutte de sang, ils en font une flaque. Comme un bon titre pour une bonne traque, faut de la croche. Un bon scoop afin que l'auditeur s'approche. Ouais, le fond, s'en faut au fond, faut vendre l'info. C'est clair qu'faut faire mouiller le lecteur plus vite qu'une info devant le cigare de Bill. Le pire, c'est qu'on répète ce que répète le mec à William. Que peut-être qu'il lui a mis au fond, enfin. Bon, passons, parce que de toute façon, maintenant l'info, ils te la font tous façon fashion. Ouais, façon carry time, façon action. Ça parle de gang, bien de trafic, des camps. Truc à jeunes, y'a une embrouille, t'as caché le vice, fils. Ouais, pour que leur pisse glisse, pour que leur papy se vende, on nous diabolise tous. Entretenant les phobies et allant jusqu'à foutre des fausses barbes à des mecs de Tessie, j'trouve ça navrant. Ouais, quand les médias se font le relais du pouvoir, alors que leur rôle c'est qu'on puisse tout voir. J'doute de tout, faut pas qu'on foute le feu, ils foutent le flou, craignant de réveiller une foule de fous. Quand les médias se font le relais du pouvoir. Alors que leur rôle c'est qu'on puisse tout voir, tout, tout, tout. Voilà. Quand les médias sont le relais du pouvoir. Voilà. Alors que leur rôle c'est qu'on puisse tout voir, tout, tout. J'ai vu comment sur deux phrases on pouvait me faire dire en fait ce que j'avais pas dit et ça perdure. J'ai pas dit que ça me perturbe, non, je suis au-dessus de ça. Et puis je sais que ça fait aussi partie de notre succès. Je parais pas dans le game, mais j'en connais les règles mieux quiconque. Pour faire la une, on sait tous qu'il n'y a pas que le talent qui compte. C'est clair qu'il y a le buzz, donc puis il reste. Ça y est, t'as pigé le test, ça j'ai plus de musique aujourd'hui, mais bien de maîtriser le geste juste. C'est vrai que ça suce pas mal quand tu lis les chroniques de Scud, de rap français, t'as mal. Quand tu dictes pour un Scud, ils peuvent mentir autant. Alors imagine quand il s'agit de l'OTAN, comment ils peuvent nous la mettre.
Bonsoir, nous ouvrons ce journal avec un chiffre encore en hausse, celui de la délinquance, plus 17%, un chiffre alarmant qui illustre bien le sentiment d'insécurité.
Six mois de propagande et le tour est joué. On braque les feux sur la banlieue, le plan pouvait pas échouer. Ils font ce qu'ils veulent, nous donnent ce qu'ils veulent. Bien nous donner, nous informent même de trucs dont ils n'ont pas toutes les données. Ils préfèrent se cacher derrière l'œil ton, dans le but de foutre le frisson aux Français à 20h. En montrant le feuilleton, ces bâtards collent à bord, en nous tenant pour les principaux responsables de l'échec, alors que tout déjà déconne à bord. Quand les médias se font le relais du pouvoir, alors que leur rôle c'est qu'on puisse tout voir. Je doute de tout, ou pas qu'on foute le feu, ils foutent le flou, craignant de réveiller une foule de fous. Voilà. Quand les médias sont le relais du pouvoir, voilà. Alors que leur rôle c'est qu'on puisse tout voir. Voilà. Quand les médias sont le relais du pouvoir, voilà. Alors que leur rôle c'est qu'on puisse tout voir.
Exactement. Toujours sur Canal Sud 92.2, canalsud.net, on est dans le magazine, on parle de la presse libre, indépendante, joyeuse et locale, et de ses grosses difficultés à survivre en temps de crise, et même pas en temps de crise, devant les mastodontes des grands médias dominants. Et on parlait justement des moyens d'étouffer cette presse. Nicolas, tu avais un autre exemple à nous donner, un autre moyen de pression sur ces petits sites qui n'ont pas trop de moyens, qui vivotent comme ça, avec des contributions. Et puis il y a d'autres moyens de pression justement.
Alors oui, justement, alors pour les citer, on a le Grand Soir qui est un portail d'infos, ou bien dans un truc totalement différent qui s'appelle les Cahiers du Foot, qui essaie de parler du football d'une manière légère et sérieuse à la fois. Ces deux sites ont eu une plainte pour diffamation, et lorsqu'on vivote déjà, lorsqu'on prend une plainte en diffamation, ça a des frais supplémentaires. Et des fois, ces petites structures n'ont pas les moyens de faire face à ces plaintes. Et si ces plaintes sont répétées, au bout d'un moment, même s'ils sont dans leur bon droit, vous avez l'obligation de mettre la clé sous la porte. Et c'est une manière très insidieuse de faire pression sur ces sites, parce que quand on a un grand groupe, on a une batterie d'avocats, on a les reins solides, on a ce qu'il faut pour se défendre. Lorsque vous êtes un petit site, comme je les ai cités, eh bien, vous êtes véritablement à la merci de ce genre de pratique.
Et justement, Philippe, tu disais, Satiricon, l'ex-journal satirique toulousain, oui, a un peu vécu ça, quoi.
Oui, oui, il a très bien vécu ça, d'ailleurs, mais il y en a un qui utilise très bien ça, la victimisation, c'est Fakir, hein, aussi. On se rappelle de l'histoire avec l'industriel qui avait porté plainte, et Fakir...
Jean-Charles Naori, PDG de Casino.
Voilà, de Casino, et Fakir s'est servi de ça pour se faire une renommée, en fait. Mais c'est vrai qu'il y en a plus qui disparaissent que qui tiennent. Et en fait, à Toulouse, Satiricon, il y a une vingtaine d'années de ça, avait été attaqué par Baudis sur un article en diffamation et avait perdu sur un mot ou deux. Mais Satiricon avait fait une soirée de soutien parce qu'il devait payer 15 ou 20 000 euros de frais d'avocat, de frais de justice, et avait récolté 30 ou 40 000 euros.
Donc ça en était sorti.
Donc c'est marrant parce que, en fait, Satiricon qui devait s'arrêter a survécu grâce à la plainte de Baudis, ce qui est quand même assez savoureux.
Tu vois, ça va pour Satiricon, mais si
mais
tu
rare,
vas...
c'est vrai que c'est rare.
Le problème, c'est que si tu as 2-3 plaintes, le problème, tout le monde. Alors justement, ça acquis tout double, ça peut amener des gens à se mobiliser et à faire ce qu'ils ne font pas, c'est-à-dire à aider, à financer, à rentrer dans des scopes, comme on l'a dit, et tout, mais c'est extrêmement ténu parce que
bien sûr.
Peut marcher une fois, pas deux, mais alors qu'en face, on va dire, les adversaires de ces médias peuvent, eux, se relayer pour pouvoir attaquer de la sorte.
Alors après, nous, sur Friture, on fait très attention à ce qu'on écrit, mais vraiment, surtout sur des sujets tendus, comme l'a été Hollywood, comme ont été d'autres sujets. C'est aussi à nous d'être vigilants. Hein. Nous, on a une équipe de journalistes, on est très relus, surtout sur des questions judiciaires. Donc, il faut être vigilant. Mais si on se fait attaquer un jour par la Dépêche, ou pour une autre raison, on ne tiendra pas le coup, quoi. Ça, très clairement.
Nous non plus.
On
n'aurait pas tenu le coup. Ouais.
Et du coup, bon, à part se mettre en procès pour récolter des sous en soirée de soutien, qu'est-ce qu'il y a comme solution là pour arriver à renverser la table, renverser ces structures? Donc, on va parler du modèle coopératif, mais qu'est-ce qu'on peut faire là pour changer ça? Parce que moi, pour moi, ça m'évoque un peu ce qui se passe dans les boîtes et qu'à un moment donné, il va falloir faire un petit mouvement social. Enfin, il y a quelque chose dans le genre.
Un mouvement social des journalistes,
on va pas rêver. Ah bah quoi peut-être si, il faut rêver.
Peut-être pas défiler. Alors moi, je pense qu'il y a une solution hein, qu'on avait essayé de faire, nous, il y a 4-5 ans. C'est mon grand regret, quoi. C'est qu'on n'arrive pas, même dans les milieux alternatifs, à se regrouper. Je veux dire, on a tous conscience du contexte local et régional. Moi, par exemple, je trouve ça très dommage qu'on n'ait pas réussi à s'allier avec peut-être Carré d'Info, avec TV Bruit, avec des radios. Voilà, je pense que face à ce qu'on a en face, La Dépêche et d'autres journaux, avec le contexte de la crise, avec la difficulté d'être opéré à cause des réseaux sociaux, tout ça, il faudrait qu'on arrive un jour tous à Toulouse ou ailleurs, hein, rue 89 c'est quand même ça à la base, hein, c'est des militants qui se sont rassemblés, de créer une structure. Alors c'est vraiment très compliqué parce que on pense pas peut-être tous de la même façon, il y a des affinités, tout ça. Je pense que si un jour un journal peut réussir à Toulouse ou en Midi-Pyrénées, ça sera avec ça, un rassemblement, on va dire, de forces vives. Hein. C'est pas le grand soir, hein. C'est pas une marche révolutionnaire, mais il y a pourquoi beaucoup pas. De jeunes journalistes à Toulouse, il y a beaucoup de petits journaux. Faudrait qu'un jour on mette ça sur la table et que peut-être on essaie de construire un gros truc commun.
Tous ensemble. Voilà. Xavier ?
Je suis assez d'accord sur le principe. Après, c'est vrai que c'est délicat parce qu'on a face à. Friture est une association, nous on était une SARL, TV Bruit, je ne sais pas quel est leur statut. On n'avait pas exactement la même position, et puis qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait du internet ? Est-ce qu'on fait de la télé ? Est-ce qu'on fait du papier ? C'est très compliqué à gérer. Ça peut se gérer. Je pense que je suis d'accord avec Philippe que c'est quand même par là que ça peut aboutir. Après, je pense à l'échelle. Je pense qu'il faudrait aller vers une échelle un peu plus large par rapport à l'audience. Je pense à l'Euro-Région, réunir une structure sur l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Et après, nous, on s'est penché quand même sur pas mal de cas. On ne s'est pas laissé mourir sans rien faire. Donc, on a essayé plusieurs choses, on s'est renseigné. Et il y a un modèle, moi, qui me séduit, mais qui est encore compliqué à mettre en place en France, mais qui est un modèle aux États-Unis qui commence à faire des petits, qui s'appelle... un fonds de dotation. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas une fondation qui existe déjà et qui va prendre le contrôle d'une entreprise. C'est tiré cet exemple d'un site qui s'appelle ProPublica, qui fait des enquêtes sur ce qu'ils appellent du journalisme d'intérêt public. Mais ça me tient assez à cœur parce que ça donne du sens en fait, parce que du journalisme il y en a plein. Vous pouvez bosser pour Camping Car Magazine, vous pouvez bosser pour Pêche Magazine, vous pouvez aussi bosser sur des enquêtes qui ont un intérêt public.
Mickey Parra d'ailleurs, des aides à la presse. Hein.
Ben voilà, donc le journalisme d'intérêt public, c'est ce qu'ils défendent. Et du coup en fait leur système est assez ingénieux, mais après bon là-bas ils ont quand même les dons sont quand même plus incitatifs, mais ils ont créé un fonds de dotation, donc doté de plusieurs millions de dollars, qu'ils ont placé dans des fonds éthiques et responsables avec des intérêts qui sont pas faramineux mais qui sont pas risqués et qui sont pas spéculatifs. Et en fait les intérêts générés par ce fonds de dotation financent une rédaction de, je crois, 60-70 personnes. Ces personnes ont le temps de travailler, ils sont salariés, ils font les enquêtes qu'ils veulent sur le format qu'ils veulent, avec bien sûr il y a une structure journalistique, on choisit les angles, on discute, etc. Et une fois que le travail est abouti, ça a pris un jour, un an, une semaine, voilà, le travail est publié sur le site ProPublica, mais il est publié sous une licence Creative Commons.
D'accord.
C'est-à-dire qu'ils disent, Newsweek, enfin feu Newsweek, vous pouvez prendre mon papier, c'est gratuit. Moi j'ai été payé pour faire ce travail, j'ai pas besoin d'avoir des royalties sur la diffusion dans votre canard, moi ce que je veux c'est que l'information soit le plus diffusée, parce que c'est du journalisme d'intérêt public. Et ils ont des partenariats avec des grands journaux américains, et leur travail est diffusé, et les journalistes sont payés. Et ils ont aucune espèce de subordination à gérer, puisqu'en fait, une fois que l'argent est mis, il ne bouge plus. L'argent est mis une fois, et c'est les intérêts qui payent cette rédaction. Et je trouve ce modèle assez sain et assez vertueux, en fait. Sachant qu'on peut diffuser, voilà, le but est d'être lu et de faire notre travail. Et en fait, on travaille pas sur justement le capital, mais sur la valeur réelle du travail, quoi. On est payé pour son travail, et après, on crée quelque chose qui est destiné à être diffusé. Voilà. Donc, je pense que ça sera intéressant.
Il te revient le mot de la fin parce que c'est déjà l'heure, Nicolas. Donc je te laisse le mot de la fin par rapport aux alternatives justement.
Juste l'une des premières choses à dire, c'est tu parlais de changement par rapport à d'autres secteurs. Je pense qu'il ne pourra pas y avoir de changement si on n'intègre pas la question du changement des médias dans le mouvement, quel qu'il soit. C'est-à-dire que on ne pourra pas penser autrement si on ne pense pas autrement les médias, pour faire une formule. Après, nous, en tant qu'Acrimed, ce qu'on l'a dit, c'est lutter contre la concentration et la financiarisation des médias, c'est-à-dire tout le contraire de ce que tu viens de dire. Comme on l'a dit, que les médias soient une entreprise qui fasse des bénéfices, on voit très bien que l'information en tant que nécessité pour pouvoir penser est incompatible avec des impératifs économiques de la sorte. Surtout aussi constituer un véritable secteur public, véritablement financé à la hauteur de ce qu'il faut. Et si en France, on n'a pas assez d'argent dans ce pays pour pouvoir financer un secteur public véritable, je pense que ça se saurait. Le seul truc, c'est encore une fois, c'est une question de partage des richesses. Et on voit très bien où la majorité de l'argent part. Ensuite, là aussi, on ne peut pas faire de l'information sans garantir des droits aux journalistes et aux usagers, que ça soit la fin de la précarité qui est quand même extrêmement dominante et qui permet justement d'avoir une information au rabais parce qu'on ne paye pas les gens à la hauteur de ce qu'ils pourraient être pour pouvoir avoir de vrais moyens pour enquêter. Et là-dessus, l'une des propositions d'Acrimed pour chapeauter tout ça, c'est ce qu'on appelle, nous, l'appropriation démocratique des médias par la création d'un Conseil national des médias, doté de pouvoirs élargis, qui n'a pas du tout le CSA, qui est avec des personnes qui sont choisies par le pouvoir. Donc, quand on est choisi par le pouvoir, c'est la meilleure manière pour qu'une instance fasse tout pour que rien ne bouge. Donc, elle aurait la charge justement de redéfinir les modalités de financement du public et des médias, le contrôle de la publicité, et moi j'ajouterai à mon titre personnel, et donc la ventilation des budgets de toutes les publicités pour pas que ça soit encore laissé à la mainmise du privé. Et la gestion des moyens publics de production afin, comme on l'a dit, que tous les médias qui existent puissent avoir accès aux auditeurs, aux lecteurs, aux internautes.
Très bien, désolé, on va devoir conclure là-dessus. On aurait bien aimé avoir les réactions des uns et des autres. Le débat promettait d'être fort passionnant pour une deuxième heure. Malheureusement, nous n'avons qu'une heure ce soir. Merci Philippe Gagnebé de Friture Magazine. Merci Xavier Lalu, ex-Carré d'Info.
Ça reste en ligne, hein. Vous pourrez consulter les archives encore un moment.
Et Nicolas Mathiussi, adhérent de l'association Acrimed Action Critique Média. Merci à tous les trois. On n'a pas parlé de la place des femmes dans les médias, nos excuses pour justement avoir fait un plateau exclusivement masculin. On essaiera de se rattraper les prochaines fois. On n'a pas parlé non plus du fait de savoir s'il fallait encore des journalistes pour faire de l'information, même si des débuts de réponses ont été donnés. On n'a pas parlé de savoir comment on change le monde en changeant les médias, en changeant la vie et en changeant tout. Allez, fini à parlotte, place à la révolution. Bonne soirée sur Canal Sud et à bientôt.